Nous allons maintenant parler de la persécution de Dèce, c'est-à-dire nous sommes au milieu du IIIe siècle. Les persécutions ont continué de manière plus ou moins sporadique pendant tout le IIIe siècle. Voilà. Pendant tout le IIIe siècle, mais le plus souvent n'intéressait qu'une partie de l'Empire, lequel empire avait des difficultés croissantes à défendre ses frontières, et pendant ce temps, le christianisme continua à progresser de par le monde. Sous l'empereur Maximin, entre 230 et 238, on commença à voir apparaître des chrétiens parmi les prisonniers faits au cours des batailles sur les bords du Rhin et du Danube. La parole du Christ avait donc pénétré chez les Germains et chez les Slaves. Sous le roi Tiridate III, vers 290, l'Arménie, petit état tampon entre la Perse et l'Empire romain, devint chrétienne, avec comme premier évêque Saint Grégoire dit l'Illuminateur. Ce fut la première nation chrétienne. L'administration romaine connaissait les évêques comme responsables de la gestion des caisses des collèges funéraires, qui étaient les caisses de bienfaisance des communautés chrétiennes. Donc, les évêques avaient une certaine responsabilité civile. Il répétait que la charité était une passion et qu'il convenait de garder la joie dans les souffrances. Souffrances auxquelles il était recommandé de compatir, selon la phrase de saint Paul, « Qui est infirme sans que je souffre, qui est scandalisé sans que je brûle. » Après le règne de Maximin, il y eut 11 ans de répit pour l'Église. Sous le gouvernement d'empereurs qui n'étaient pas tous romains de souche, il y eut Gordien III, en 238 et 244, un prince pieux et bienveillant, et puis Philippe l'Arabe, entre 244 et 249, dont plusieurs historiens pensent qu'il était peut-être chrétien. Le pape de l'époque était saint Fabien, élu en 236. Une de ses lettres montre que le clergé de Rome était déjà nombreux. Il y avait 46 prêtres, 7 diacres chargés de l'administration des matériels et des cimetières, 7 sous-diacres pour les y aider, 42 acolytes et 42 clercs mineurs. Il fallait donc agrandir les catacombes. Dans certains cas, on passa de 2 étages, souterrains, cela va de soi, à 4 ou 5. Ces catacombes étaient décorées. Ce fut les débuts de l'art chrétien, bien émouvant, avec son Christ imberbe qui évoque Orphée, voire Cupidon, image de l'amour à cette époque. Malheureusement, ce fut une époque d'anarchie militaire, pendant laquelle l'Empire semblait vaciller. Saint Cyprien le note dans une lettre, « Les pluies ne sont plus assez abondantes, le soleil ne tombe plus aussi chaud sur les moissons, c'était le refroidissement climatique, les carrières de marbre s'appauvrissent, les mines donnent moins d'or et d'argent, les champs manquent de laboureurs, on ne voit plus ni maisons remplies d'habitants, ni corps bien fournis en soldats, dans la vie publique on ne trouve plus l'intégrité, entre les citoyens la concorde est plus rare, dans les arts le talent s'amoindrit, dans les mœurs la discipline se relâche. Au refroidissement climatique près, on se croirait de nos jours. » En 249, Philippe l'Arabe fut assassiné par Decius, qui prit le pouvoir. C'était un homme décidé mais violent et cruel, qui se fixa comme but le rétablissement de l'Empire dans toutes ses dimensions. Pour Dèce, il n'y avait aucun doute. Les chrétiens étaient les seuls responsables de cette décadence. À peine monté sur le trône, il promulgua un édit de proscription stipulant que tous, sans distinction, doivent sacrifier aux dieux de l'Empire. Dans toutes les villes, tous les habitants seront sommés de faire adhésion au culte officiel. Ceux qui refuseront seront enfermés dans les prisons de l'État et condamnés à une série de tortures dont le choix était laissé à l'imagination du bourreau. Un délai était fixé pour se conformer à l'édit. Ceux qui finiraient perdraient leurs biens et seraient punis de mort s'ils rentraient. Ceux qui ne se présenteraient pas, seront traînés devant les juges. Un article spécial invitait les fonctionnaires à déployer la plus grande rigueur. Il s'agissait d'une persécution méthodiquement organisée. Sentant la puissance de l'Empire vaciller dangereusement, il faisait tout pour éviter l'échéance. L'impression sur les chrétiens fut d'autant plus terrible que l'Église qui se développait librement depuis 11 ans avait un peu perdu le sens du danger des persécutions et comptait beaucoup de chrétiens de naissance. La sourdine mise aux persécutions avait parfois permis une nuance, disons, de mondanité. Pour reprendre une allusion à l'Apocalypse et aux corrections aux églises d'Asie dont je me suis permis de parler il y a 2 ans, ce n'était pas encore l'église de Sardes, mais déjà celle de Thyatire. Les chrétiens devenaient un peu tièdes. Gardons-nous de les juger. Qui sait ce que nous aurions fait en pareilles circonstances? Les réactions des chrétiens furent variées. Certains obéirent promptement, purement et simplement. Il y en eut malheureusement plus d'un, dont hélas quelques évêques. D'autres jouèrent sur les délais, cherchant à retarder l'échéance le plus longtemps possible dans l'espoir d'un adoucissement de la loi. D'autres envoyèrent un esclave sacrifié à leur place pour obtenir le certificat libérateur. D'autres ont proposé de l'argent à des magistrats complaisants qui n'étaient certainement pas mécontents de l'affaire. Beaucoup, en effet, ont renoncé à leur foi pour ne pas perdre leurs charges et leurs biens. Et comme je l'ai déjà dit, il y eut des évêques parmi eux. Gardons-nous de regarder de haut de tels comportements. Nul ne saurait prévoir ce qui nous attend. On ne peut s'empêcher de penser à ce qui se passe dans certains pays musulmans, où les chrétiens sont interdits de certains emplois officiels, comme en Égypte, ou à ceux où porter un chapelet peut vous conduire en prison, comme en Arabie Saoudite, ou à des pays africains où nos frères chrétiens sont massacrés à la sortie de la messe. Toutes ces dérobades des chrétiens du IIIe siècle étaient naturellement condamnées par les évêques restés fidèles, qui désignaient les coupables sous le nom de lapsi. Il y avait les turificati, qui avaient brûlé l'encens devant les idoles, les sacrificati, qui étaient allés jusqu'à sacrifier aux faux dieux, les libellatici avaient employé de moyens détournés pour obtenir le certificat libérateur. Tous proclament les saints évêques, dont plusieurs périrent martyrs, jetèrent l'Église dans une profonde douleur. Le pape déclara sans embâge « Si vous recherchez ces trompeuses habiletés, vous reniez vraiment le Christ. Si vous voulez passer pour avoir sacrifié aux dieux, vous êtes vraiment idolâtre. » Cette phrase devrait donner à réfléchir à bien des personnes qui, de nos jours, sans renier vraiment la foi, essaient de rester dans le camp des libres penseurs ou, sous prétexte de tolérance, admettent sans trop de résistance des péchés, des idolâtries affirmées telles que l'avortement, l'homosexualité et toutes sortes de relativisme. Ils craignent avant tout d'être traités de sectaires ou d'intégristes. Le nombre d'hommes politiques qui ont brandi l'étendard de leur foi lors de discussions à l'Assemblée nationale sur des sujets importants est plutôt faible. Au Christ, on préfère la laïcité, cette nouvelle idole à la mode. Nous devrions souvent répéter la parole du Christ relatée par saint Matthieu, chapitre 10, verset 33. « Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Si de nos jours le respect humain pousse certains au bord de l'apostasie, que serait la menace du martyr? Après l'édit d'Odesse, l'angoisse des chrétiens fut terrible. Prions le ciel que pareille mésaventure nous soit épargnée. La persécution frappa à la tête. Un des premiers atteints fut le pape saint Fabien dès décembre 249. Odesse interdit de lui donner un successeur. Le pape avait un rôle officiel dans la gestion des fonds de l'Église, comme je l'ai dit, préférant, a dit saint Cyprien, avoir à Rome un autre emploi plutôt qu'un pape. Le Saint-Siège resta vacant jusqu'en avril 251, soit presque 2 ans, lorsque saint Corneille fut élu pour éviter un schisme. Parmi les illustres martyrs de Dieu, on peut citer saint Fabien, outre saint Fabien, saint Agathe en Sicile, saint Saturnin à Toulouse et Beaulieu de chez Corneille. Mais après un premier temps de relâchement, la résistance reprit ses droits. On a parlé de 4000 martyrs à Rome. Le XXe siècle a fait beaucoup mieux, il est vrai. Origène fut martyrisé à 55 ans. On lui écartela les jambes. Chez les évêques, en plus des persécutions, des divergences sur les saisies des données de la foi commencèrent à apparaître, et ça c'est grave. Ces dangers de schisme furent la cause principale de l'élection urgente de saint Corneille. Les Grecs se vouaient plutôt à l'étude, cherchant à aller au fond des choses, pendant que les Latins s'attachaient surtout aux questions pratiques. On a pu dire que l'Occident s'égarait sur des schismes et l'Orient sur des hérésies. Nous en reparlerons avec le IVe siècle. Ce fut une période vraiment terrible pour l'Église. Il est des cas où on a le choix entre l'héroïsme et la désertion. Prions que le Saint-Esprit nous donne sa force au cas où de telles épreuves fondraient sur nous. Dès mourir en 241, après seulement 2 ans de règne, heureusement. Valérien qui lui succéda, reprit la persécution en 257, martyrisant en particulier les papes Corneille et Sixte II, ainsi que l'évêque de Carthage, Cyprien. Il fut vaincu par le roi des Perses, qui en fit son esclave. J'ai eu l'occasion de voir à Persépolis une sculpture représentant l'empereur en question, Valérien, implorant la grâce de Chapeau Ier en se prosternant devant lui. J'ai pensé à Versailles et Torix, la roue tourne. L'empereur suivant, Galien, mit fin provisoirement à la persécution. Tout le IIIe siècle fut très troublé. Consultant mon dictionnaire, j'ai constaté que 14 empereurs se sont succédés entre 235 et 305, soit en moyenne un tous les 5 ans, y compris Galien qui lui régna 15 ans. La société romaine était en train de s'effondrer dans une confusion croissante. Tous les empereurs, en général, étaient assassinés par leurs successeurs. Les déchirements dans l'Église recommencèrent après la fin des persécutions quant au pardon accordé aux lepsi. Après 2000 ans de perte de christianisme, nous avons pris le pli, pourrait-on dire, de pardonner. Ce n'est que maintenant que l'on voit réapparaître le soi-disant devoir de mémoire qui n'est souvent qu'une rancœur, un appétit de vengeance. Il n'en était pas de même dans l'Antiquité. Pardonner 70 fois 7 fois n'avait rien d'évident. À l'époque, Dieu n'était pas le papa gâteau un peu amnésique que veulent imposer ceux qui refusent de croire à l'enfer. À l'époque, s'engager par la foi n'était pas une parole en l'air. Une partie de l'Église professait une sévérité outrancière en disant « Jamais ils ne pourront entrer parmi nous, leur péché est au-dessus de toute pénitence. » Cela ne durera guère, mais les jugements étaient sévères, quoique non conformes aux intentions pontificales. En ce qui concerne les péchés commis avant le baptême, l'Église primitive semblait très large, rappelant que les hommes en question n'étaient pas les temples du Saint-Esprit et que la grâce n'habitait pas en eux. Pour les péchés commis après le baptême, il préconisait pour les fautes les plus graves, en particulier pour l'apostasie, l'homicide et l'adultère, des pénitences très dures. Les plus grands pécheurs étaient chassés de l'Église, relégués dans le portique du temple. Ensuite, ils étaient admis dans le couloir. Les moins punis pouvaient assister à la première partie de la messe des catéchumènes. On retrouve la trace de ces pratiques dans l'ancienne liturgie du temps de carême. Mais depuis toujours, le vendredi saint, l'Église prie pour tous les hommes, notamment pour les païens et les juifs. Et le samedi saint, le jour des baptêmes, était aussi celui du retour des paysans dans le sein de l'Église. Il fallait parfois plusieurs années et plusieurs carêmes appelés quarantaines. On en retrouve la trace dans les indulgences de 7 ans et 7 quarantaines. Bien des fidèles ne savent plus ce dont il s'agit. En face de rigoristes comme Tertullien et les montanistes, Saint Cyprien affirmait « Le pardon est accordé non seulement à ceux qu'on nous recommande, mais à tous les lapsi dès maintenant, selon le pouvoir que nous a donné le Christ par Paul qui est au ciel. » À noter qu'un de ses disciples recommandait sa sœur riche, qui faisait théoriquement partie des lapsi, mais qui employait sa fortune à recueillir et à réconforter les chrétiens. C'est toute l'histoire de la mèche qui fume encore, et celle du bon larron. La question du pardon au lapsi alla jusqu'à provoquer un schisme. Un certain Novatien, qui dans un premier temps avait renoncé à sa prêtrise, revint à son rôle après une retraite dans le désert. Il fit venir chez lui 3 évêques au fond de l'Italie, les gorgea de vin et, ajoute le chroniqueur, de viande succulente, afin qu'il lui impose les mains, puis qu'il se proclame pape. Ce fut le premier antipape qui fonda son schisme sur une rigueur accrue, refusant à l'Église le droit d'absoudre l'homicide, l'adultère et l'idolâtrie. Saint Cyprien mit fin à cette aventure qui ne devait pas être la dernière. Il faut certes affirmer que Dieu est plus tendre que la plus tendre des mères, sans avoir le front d'abuser de sa miséricorde. servir l'amour sans égoïsme. C'est peut-être là une voie vers la sainteté. Je vous souhaite un bon été.